Bonjour, ici François Nardou de Montcuq, au studio du Boulevard. Je vais aujourd'hui vous parler de Saint-Vincent, le vin et le sang. Le vin que l'on boit et le sang qui coule. Le jeu de mots n'est possible qu'en français. En occitan, San Vincenzo, ça ne donnerait rien. Vincenzo en italien. Je ne parle pas des autres langues où c'est un peu la même chose. Mais c'est assez curieux de voir qu'en français, ce jeu de mots réunit les deux motifs principaux de la mythologie. Du personnage, de la figure de Saint-Vincent et de la mythologie de la vigne et du vin. Le vin, c'est le sang de la vigne. Et ce n'est pas pour rien si c'est un des deux éléments de l'Eucharistie chrétienne. Saint-Vincent, illustré par des proverbes qui tournent autour de la date du 22 janvier, qui est la date historique de son martyr, donc de sa naissance au ciel, de son entrée dans le ciel, est un saint qui s'est retrouvé patron de la vigne et du vin pour des raisons historique très hasardeux, c'est dû au hasard. En fait, dans l'Europe ancienne, la date de la fête de Saint-Vincent, 22 janvier, jour de son martyr, était celle à laquelle l'on se mettait à tailler la vigne en plein hiver, en vue du démarrage de cette plante au printemps. L'autre date clé, c'était la Saint-Denis, le 9 octobre. Mais entre les deux, entre le 22 janvier et le 9 octobre, de nombreuses dates et fêtes de saints intervenaient dans le calendrier qui escandaient l'année viticole, l'année de culture de la vigne et la production du vin. La saison de production du vin qui, elle, s'étendait au contraire du 9 octobre, date ultime des vendanges, jusqu'au mois de mars où recommençait l'année agricole. Et malgré les proverbes tournant autour de la Saint-Vincent et qui évoquent le temps qu'il fait et qu'il fera, le temps de fin d'hiver et début de printemps, ce saint est connu pour être célébré partout en Europe occidentale comme le saint patron de la culture de la vigne, notamment en France, et notamment dans les régions de France, de l'ancienne Gaule romaine du IVe siècle, où la culture de la vigne était le plus, délicate, difficile. C'est-à-dire, on a remarqué du reste, très curieusement, que les vins français les meilleurs sont aussi ceux obtenus dans les régions où la culture de la vigne est la plus difficile, où le climat s'oppose le plus à celle-ci. C'est là que l'ingéniosité humaine s'est le plus développée. C'est la même chose pour ce qui est du maraîchage. Les techniques modernes de maraîchage sont nées dans les banlieues maraîchères des grandes villes de l'Europe du Nord-Ouest. Alors, Saint-Vincent est un saint martyr connu surtout par la légende dorée de Jacques de Voragine, écrite à la fin du XIIIe siècle par cet archevêque de Gênes, ancien grand inquisiteur, qui reprend pour établir ce que fut la vie de Saint-Vincent et sa passion et sa mort, ce que l'on en connaît par les sermons prononcés par Saint-Augustin, évêque d'Hippone, mais alors qu'il était encore simple diacre de l'évêque d'Hippone, vers 380-400. Et Saint-Vincent, en latin, certes, vincens, vincentius, c'est celui qui vainque, c'est le vainquant, le vainqueur, qui est un adjectif que le christianisme des premiers siècles attribuait souvent au Christ en tant que sauveur, y compris dans le Proche-Orient ancien, y compris dans les chrétientés du sud de l'Arabie, l'Arabie heureuse, le Yémen actuel, l'ancienne oasis de Najran, les oasis du nord du désert arabo-syriaque, où des inscriptions nous montrent la présence de chrétiens, de fortes chrétientés, très nombreuses, jusqu'aux portes de la Mecque, à Taïf, par exemple, de nos jours, il y avait de fortes chrétientés qui vénéraient le Christ en tant que vainqueur et sauveur. C'est intéressant dans la mesure où ce sont des régions de production de vins de très grande force, les vins de Taïf. À l'époque, ça s'appelait Taqif, étaient réputés pour leur puissance. À la Mecque même, on consommait du vin avant l'islam. Le vin, dans la mythologie ancienne, est le liquide, la boisson, qui renferme la puissance, la vertu. Une vertu, une force, une robustesse, qui évoque la puissance de la divinité, la puissance de Dieu. Au fond, le vin, c'est le liquide de la connaissance de Dieu. Et cela se retrouve dans la vie de notre Saint-Vincent, qui était né dans le nord de l'Espagne, en ce qui est un jour l'Aragon, le pied des Pyrénées, la ville de Huesca, À l'époque, c'était Osca. C'était la patrie de sa mère, la famille de sa mère. Il était devenu diacre de l'évêque de Saragosse, et pour des raisons que les historiens s'expliquent mal, il a été traduit en justice pour sa religion chrétienne, devant, semble-t-il, un personnage qui apparaît dans toutes les vies de saints et de martyrs de cette époque-là, vers 300 de notre ère, sous le règne de Dioclétien. Ce personnage persécuteur des chrétiens portait le nom de Dacianus, Dacien en français. Il intervient dans toutes les vies de saints de l'Espagne du IVe siècle, de la persécution de Dioclétien. Et il est traduit en justice, alors que ce Dacianus siégeait non pas à Saragosse, capitale de la vallée de l'Èbre, ni à Tarragone, la capitale de la Tarraconaise, ni à Séville, capitale de la Bétique, ni à Carthagène, celle de la Carthaginoise, mais dans une ville secondaire, Valence, la ville fondée au second siècle avant notre ère, Valentia, c'est-à-dire la forte, la robuste. Et il est traduit en justice devant ce Dacianus, qui le condamne à être mis à mort. Enfin, il veut le contraindre à abjurer le christianisme et à adhérer au polythéisme traditionnel de l'Empire romain. C'est le sens de la persécution déclenchée par Dioclétien vers 303-305 de notre ère, et qui va durer une dizaine d'années. Elle sera moins forte dans l'Occident de l'Empire parce que le père de Constantin, Constance Chlore, protégeait les chrétiens, et il était pourtant compétent pour l'Espagne. Mais on nous dit que les actes de son procès, qui étaient conservés encore vers 400-430, dans les archives de l'Empire à Rome, au tabularium, c'est-à-dire les archives de l'Empire romain, sous le bâtiment du Sénat, c'était des archives énormes, encore consultables au 5e siècle. On sait par Tertullien que vers 200-250, on pouvait y lire les actes du procès intenté devant Pilate à Jésus. Le procès de Jésus avait ses actes encore conservés. Ça prouve l'historicité du Christ. Et les actes du procès de Vincent sont intéressants parce qu'ils rassemblent différents modes de torture qui sont en rapport avec, bizarrement, d'autres rites. Il semblerait en quelque sorte que le martyr de Saint-Vincent, comme celui de Saint-Laurent, comme celui d'autres saints de la période de la persécution de Dioclétien et des persécutions antérieures, reprennent en fait les modes de sacrifice de victimes animales, plutôt qu'humaines, offertes à différents dieux du paganisme ancien. Et j'avais pensé que le martyr de Saint-Vincent reprenait les modes de sacrifice par lesquels les adeptes du culte de Dionysos Bacchos offraient des victimes animales à celui-ci. Or, je vous le disais dans une émission précédente, on sait que les adeptes du culte de Dionysos Bacchos ont, jusque vers, disons, l'époque de l'intégration du monde méditerranéen dans l'Empire romain, la romanisation du monde méditerranéen, ont pratiqué des sacrifices humains, avec dévoration de victimes humaines, de chair crue et de sang chaud. Mais je pense que mon interprétation était trop, téméraire. Ce qui est intéressant dans le récit du martyr de Saint-Vincent, c'est que, lacéré par des ongles de fer, corps posé pantelant sur des tessons de verre, brûlé à petit feu sur un grill comme Saint-Laurent, son corps est exposé aux bêtes sauvages, mais il est défendu par un corbeau, c'est-à-dire l'animal, l'oiseau d'Apollon, l'oiseau du loup gaulois, du dieu suprême de Gaulois, contre les attaques d'un loup. Le loup, dans la mythologie ancienne, c'est aussi Apollon, c'est aussi le dieu Mars, et chez les Gaulois, c'est Bélénos. On aurait donc là, si vous voulez, une opposition entre divinités, que l'on retrouve du reste dans le culte de Dionysos Bacchos, qui est le maître de Delphes pendant l'hiver, alors qu'Apollon l'est pendant l'été. Après la mort de Saint-Vincent, son corps, enfermé dans un sac, lesté d'une meule de moulin, est jeté à la mer. Mais le sac flotte à la surface malgré tout. Il revient à la côte. Il est recueilli, inhumé, enseveli, en un lieu où s'élèvera plus tard la basilique Saint-Vincent. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines versions de la légende nous montrent le corps de Saint-Vincent porté sur les eaux dans une nef, un bateau, sans voile ni rame, comme les Saintes Marie de la mer. Bateau guidé par deux corbeaux, l'un qui se tient à la proue, l'autre à la poupe. Alors c'est très intéressant parce que le corbeau est l'animal, l'oiseau parèdre de divinité, je vous l'ai dit, Apollon, le loup des Gaulois, chez les Germains, d'autres divinités de souveraineté sacrée. Et Vincent, dans la mythologie chrétienne médiévale, Étudié par Philippe Walter et par d'autres spécialistes de l'histoire des religions, Vincent est toujours associé au corbeau. Et je vous le disais, il n'est devenu le patron des vignerons que par le hasard du calendrier. Parce que tout simplement, la date de son martyre correspond au début de la taille de la vigne. Mais ça renforce mon opinion que peut-être il n'a été traduit en justice et mis à mort par torture, par laquelle il témoigne de son attachement à la foi chrétienne, il n'a été ainsi martyrisé, torturé, mis à mort, qu'en relation avec les rites, peut-être, qui étaient ceux accomplis par les vignerons, viticulteurs, producteurs de vin de la Méditerranée ancienne, à l'époque où ils recommençaient ou commençaient la saison de taille de la vigne, vers le 20-22 janvier. Ce seraient donc des rites propitiatoires accomplis dans le monde antique, occidental, méditerranéen, pour assurer à la vigne la bienveillance des dieux. Or, quel est le dieu patron de la vigne dans le monde antique ? C'est Jupiter. C'est le Jupiter latin. En Grèce, c'est Dionysos Bacchos. Dans l'Italie ancienne, la Rome primitive, et jusqu'à la Rome impériale, la figure divine qui protège la vigne, qui est patron de la vigne, c'est Pater Liber, le père Liber. Liber est un terme qui n'a rien à voir avec la libertas, le statut des fils de la noblesse du patriciat romain, les liberi. Liber est un terme qui signifie, au fond, ça désigne ce qu'il faudrait appeler le liquide séminal qui assure la fécondité de la nature et qui s'exprime par le renouveau de la nature au printemps. Et ce liquide séminal, c'est le sémen des dieux. C'est celui que l'on trouve dans le gui que les druides coupaient à certaines dates du calendrier lunaire pour le presser, l'écraser, en recueillir un suc après macération du gui, l'eau de certaines sources, et eau qui en acquérait les propriétés qui sont plutôt, disons, je dirais, c'est pas des propriétés médicinales, parce qu'à ce moment-là, ça devient un vrai poison. La baie de gui est un poison mortel. Mais chez les druides, le suc de gui chargé de baie, macéré dans de l'eau jusqu'à fermentation, pressé, écrasé, formait une espèce de liquide avec lequel ils bénissaient la campagne, la nature, les récoltes, les cultures, les hommes, les troupeaux, pour assurer la fécondité et la fertilité et l'abondance des récoltes. On retrouve cette fonction dans le vin qui est considéré comme le sang de la vigne et le sang du dieu qui réside dans la vigne. Parce que pour l'Europe ancienne, pour le monde méditerranéen ancien, un arbre, une plante, un rocher, une source ne sont considérés comme divins que parce qu'ils sont le siège, le site, le lieu, la chose dans laquelle demeure, réside un dieu que l'on appelle du nom grec de daimon, qui veut dire celui qui est le maître de quelque chose, qui maîtrise quelque chose. C'est la racine même que vous trouvez dans le latin dominus, à travers le domus, la maison, c'est le lieu où l'on domine. Et il se pourrait donc, à travers cette vision, cette assimilation du vin à un liquide destiné à des rites de magie, magico-religieux, de magie blanche, de magie de fécondité, c'est dans cela que l'on pourrait voir l'origine du patronage de Saint-Vincent sur la vigne plus que sur le vin, le grand patron du vin étant Saint-Denis, Saint-Denis de Paris. Or, Saint-Denis de Paris n'est pas n'importe qui. En latin, c'est Dionysius, en grec, Dionysios. Il est mythiquement envoyé en Gaule avec d'autres saints fondateurs d'église de Gaule par Saint-Pierre vers 50 de notre ère. Historiquement, il l'est vers 250 par le pape de l'époque. Il est martyr vers 275, décapité. Il porte sa tête jusqu'au lieu de sa sépulture. Et le lieu de sa sépulture, c'est pas n'importe quoi, c'est la future abbatiale de Saint-Denis, qui portait alors le nom de Catuliacum et qui était un marécage. On voit apparaître alors un thème majeur de la mythologie de Dionysos, son lien avec les marécages, avec le lierre qui est en fleur au mois d'octobre et qui mûrit au mois de mars. Dionysos, dieu de la vigne, est aussi celui du lierre. Le lierre, c'est la vigne de l'hiver. Nous allons entrer dans un développement de cette question, après une pause musicale. Thank you. Donc, Vincent, comme Denis, sont des saints et des martyrs en rapport avec la vigne et le vin. Vous pouvez voir que leurs martyrs n'ont pas du tout les mêmes modalités. L'un est lacéré, il est brûlé, il est jeté à la mer, l'autre est décapité. Denis décapité, Saint-Vincent lacéré, brûlé, jeté à la mer. Ça rappelle un peu la mythologie de Dionysos Bacchos, pour lequel il faut lire différents auteurs connus, Walter Otto, Marie Delcourt, Monsieur Jammer, Georges Dumézil, Mircea Eliade et autres. Alors, toujours dans ma recherche, je pensais donc voir dans Saint-Vincent une résurgence du culte de Dionysos, mais je me suis aperçu que je devais me tromper. Pourquoi ça ? Parce que les victimes offertes à Dionysos, telles que nous l'évoque Euripide dans les Bacchantes, par exemple, et les autres textes mythologiques grecs, les victimes de Dionysos sont tuées et dévorées vivantes. Elles sont dévorées vivantes, crues, leur sang est bu chaud. C'est l'effet de l'hallucination, de l'intoxication par un vin dans lequel on a fait macérer des baies de lierre jusqu'à fermentation. C'est un vrai poison. Alors que Saint-Vincent, lui, il est cuit, puis jeté à la mer. Donc il passe par le feu, puis par l'eau. Si vous voulez, Saint-Vincent représente le cuit par rapport au cru que représente Dionysos. Lévi-Strauss, dans ses mythologiques, a beaucoup développé la question. Saint-Vincent, en tant que victime offerte à Dionysos, n'est pas dévoré par les loups. Autrement dit, les Bacchants, les adeptes du culte de Dionysos Bacchos. Mais le loup, c'est aussi le dieu Mars. Il est protégé par le corbeau, qui représente Apollon. Apollon, c'est le dieu au laurier, c'est le dieu de Delphes pendant l'été. Alors que Dionysos, c'est le dieu au lierre, c'est le maître de Delphes pendant l'hiver. Dionysos, jeune, est un dieu qui meurt lacéré, dépecé, tué, coupé en morceaux, cuit et bouilli dans un chaudron, mangé par les titans, qui sont les forces brutes de la terre. Mais son cœur est sauvé in extremis par Athéna, la fille née du cerveau de Zeus, la fille sans mère, la déesse sans mère. Zeus récupère ce cœur qu'il enferme dans sa cuisse, c'est un euphémisme pour dire ses testicules, d'où renaît Dionysos. Dionysos avait eu une première naissance de la terre mère, foudroyée par Zeus et fécondée. Il est donc le deux fois né. Son image préfigure ce que sera celle du Christ par la suite, né, mort, ressuscité. Il fait partie de ces dieux qui meurent et renaissent, que toute l'Antiquité a connus et dont le culte a été longuement célébré dans une optique de vie au-delà de la mort, de vie dans l'au-delà. C'est l'origine des rites de Dionysos à Éleusis, en Grèce, et dans d'autres lieux du culte de Dionysos. Ces rites seront longtemps pratiqués jusqu'à leur interdiction par Théodose le Grand en 392, alors que les rites du culte de Dionysos, les rites sanglants de dévoration de victimes vivantes, seront encore, semble-t-il, célébrés en Arcadie, le cœur du Péloponnèse, depuis au moins 1500 avant notre ère, c'est les tablettes en linéaire B de la Grèce mycénienne qui nous le prouvent, jusque sous le règne de Justinien, l'empereur très chrétien, empereur de 525 à 565, l'auteur des fameux codes de loi, les codes de Justinien. Donc il y a une longue persistance dans ce cœur sauvage et profond de la Grèce. Est-ce que, c'est ce que je me suis demandé, en pays de Valence, la Valentia latine, Valentia Edetanorum, la Valentia des Edetani, fondée en 138 avant notre ère, dans le cadre de la conquête romaine de l'Espagne, par un certain Caius Junius Brutus, descendant d'un des pères fondateurs de la République romaine lors de la révolution de 509. Dans cette Valence, c'est-à-dire la ville forte, la ville de la puissance des Edetani, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une longue conservation des rites de Bacchos Dionysos ? Il faut savoir que la région, là il faut faire un de l'histoire antique, a été jusque vers 200 avant notre ère, seconde guerre punique, sous la domination de Carthage. Donc si vous voulez, des Phéniciens établis à Carthage, originaires de Tyr, au Liban actuel, la ville de Sor. Est-ce que dans cette moitié sud méditerranéenne de l'Espagne, sous domination carthaginoise, les Carthaginois pratiquant des sacrifices humains, et jusque vers 200, est-ce qu'il n'y aurait pas eu, les Carthaginois étant très hellénisés, la culture grecque d'Hannibal est incontestable, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un maintien de rites bacchants, de rites dionysiaques, archaïques, interdits à Rome et dans tout l'Empire romain depuis 188 avant notre ère, dans le cadre du procès qu'on appelle des Bacchanales, bien connu par la thèse de Jean-Marie Payet, professeur à l'Université de Toulouse. Alors, est-ce que, si vous voulez, la région de Valence, qui est pourtant une région particulièrement prospère, c'est une plaine, certes très marécageuse, une plaine marécageuse, mais qui a été très amendée déjà à l'époque carthaginoise, à l'époque romaine, puis ensuite elle sera à l'époque de la domination arabo-musulmane. Est-ce que cette région n'aurait pas conservé longtemps des rites archaïques ? C'est pas impossible du tout. Il faut savoir que, encore en 1600 de notre ère, Valence a été reconquise par les rois d'Aragon, comtes de Barcelone, c'est plutôt même les comtes de Barcelone devenus rois d'Aragon, en 1238. Séville le sera en 1268. Encore presque quatre siècles après, en 1600, demeuraient dans le pays de Valence de nombreux paysans musulmans sans aucune hiérarchie, pratiquant un islam très abattardi, qui seront du reste expulsés d'Espagne par Philippe II, mais ces musulmans du pays de Valence ne sont pas autre chose que des descendants d'autochtones hispano-romains chrétiens devenus musulmans au 8e siècle lors de la conquête, et qui ont conservé longtemps leur islam, sans aucun encadrement hiérarchique. Alors est-ce que dans cette région, les cultes de Dionysos Bacchos n'ont pas eu une longue survivance ? Songez que, dès qu'intervient la reconquête chrétienne de Valence, du pays de Valence, la reconquête définitive, après celle momentanée par le Cid, vers 1090-1100, un truc comme ça, peu avant la prise de Saragosse en 1118 par les rois d'Aragon. Dès la reconquête chrétienne de Valence, dans la cathédrale de Valence, l'ancienne grande mosquée devenue cathédrale, est institué un culte de dévotion au sang sacré du Christ par l'ostension et la vénération de la coupe de la Seine, la coupe sainte, le calice dans lequel le Christ a béni le vin qu'il a, par ses paroles et par sa puissance divine, transformé en sang. C'est la fondation même du rite de l'Eucharistie et de la transubstantiation des espèces du pain et du vin en corps et sang du Christ. Et cette sainte coupe conservée dans la cathédrale de Valence, qui est toujours offerte à la vénération des fidèles, notamment lors de la Semaine Sainte, c'est la cupo santo que nous bendels catalas, comme disait Mistral, Valence étant un pays catalanophone, comme les Baléares. Cette coupe sainte du repas de la Seine, du Jeudi Saint, c'est autre chose que le Saint Graal. C'est la coupe de vin et de sang du Christ, lors du repas pascal célébré par Jésus au soir de notre Jeudi Saint. Et ce Jeudi Saint, c'est pas pour rien. C'est parce que le jeudi, qu'est-ce que c'est ? C'est le Iovis Dies, c'est le jour de Jupiter. Or, Jupiter, c'est le maître de la vigne et du vin, en religion romaine archaïque, avec Pater Liber, avec Bacchus Dionysos, qui sont des formes, comment dirais-je, de manifestation de la puissance du dieu suprême, Jupiter des Romains, Zeus des Grecs. Alors donc, la cathédrale de Valence conserverait la coupe du sang du Christ, donc du vin de Dionysos ou de Jupiter. Le sang de Dionysos, c'est le vin, mais le vin, c'est le sang du Christ. Il y aurait donc, si vous voulez, là, une christianisation de rites fort anciens, et qui se manifeste en France ancienne notamment, puisque, sauf les prêtres et les évêques, le roi était le seul à pouvoir boire le vin de la communion, le vin eucharistique, le sang du Christ, lors de la cérémonie du sacre. Aucun laïc ne pouvait le faire. Or, le saint patron des rois, qui c'est Saint-Denis de Lutèce Paris. Et Saint-Denis, qu'est-ce que c'est ? C'est Sanctus Dionysius, mais c'est Dionysos, c'est le dieu grec. Et c'est Sanctus Dionysius Lutetianus, c'est-à-dire Saint-Denis, Saint-Dionysos, au marécage, car le nom de la ville de Paris, Lutetia en latin, ça veut dire la marécageuse, c'est le marécage. Et je vous le disais, dans toute la mythologie grecque et dans les rites du culte de Dionysos, celui-ci est toujours relié à des marécages, à des marées. Pourquoi ? Parce que les marécages, c'est la porte d'accès au monde des morts. Et dans les Grenouilles, la pièce d'Aristophane, qui est une comédie, Dionysos descend aux enfers, vêtu de la peau de panthère, traînant une massue après lui. Il est un mime, il essaie d'imiter Héraclès, descendant aux enfers avec la peau de lion et la massue. Et Dionysos traverse les marécages qui lui permettent d'accéder à la porte des enfers, terrorisé à l'idée d'affronter le chien Cerbère, assourdi par les cris des grenouilles qui coassent à ses oreilles, brekekekex, coax, coax. Dionysos, dieu ridiculisé par Aristophane, advient à littéralement, comment dirais-je, en termes châtiés, déféqué sous lui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se retenir et son anus libère des matières fécales. Dionysos est un personnage qui relie en lui la vigueur, la valeur, les vertus présentes dans le vin, les marécages, les matières fécales, ce que en gaulois on appelait la marda, et qui est toujours dans la mythologie inconsciente des peuples relié à l'or de la sagesse divine. C'est ce que nous allons voir maintenant dans une troisième partie, après une pause musicale. Alors, continuons un peu, puisque nous en sommes aux choses inquiétantes. Il n'y a pas que la Grèce ancienne. Pensez un peu aux fécos de Cournondérale et du carnaval de Limoux, où on poursuit les personnages masqués, qui sont des espèces d'initiés adeptes du culte de Bacchos, poursuivent les jeunes femmes dans les rues de Cournondérale et de Limoux pour les enduire, les pastifier de moût de raisin et de matière végale. Il y a une chose qui est intéressante en pays de Montcuq, c'est que le village de Saint-Donès, qui se revendique comme signifiant Saint-Denis, le village de Saint-Denis. Alors qu'en fait, bon, c'est le gaulois Dagonensis qui désigne le dieu bon, le dieu de toutes les abondances, le Dagda. Le Dagda qui est figuré tenant une massue à la main, massue avec laquelle il tue par un bout et ressuscite les adeptes par l'autre. Saint-Donès, bon certes, c'est soi-disant Saint-Denis de Paris, fêté le 9 octobre. Lutèce, je vous le disais, Lutetia, ça veut dire l'endroit marécageux, la marécageuse. Saint-Denis de Paris, c'est Dionysios, son nom est celui du vieux dieu grec. Les compagnons de Saint-Denis, Éleuther et Rustique, Eleutheros en grec, Rusticus en latin, reprennent les épithètes par lesquelles on qualifiait le dieu grec Dionysos. Il était dit libérateur et sauveur. Alors, en grec, ça se dit par le mot soter, que l'on traduit aussi bien par sauveur que par libérateur. Il était qualifié d'Eleutheros, le libre. Il était qualifié de sauvage, de Georges. Le Georges, c'est l'agriculteur, le paysan, c'est le sauvage. Dionysos, c'est l'homme sauvage, c'est l'homme des bois, qui est toujours lié au marécage. Or, le village de Saint-Donès, village soi-disant de Saint-Denis, pour moi, c'est Dagonensis, le dieu bon de toutes les abondances chez les Gaulois. Le village de Saint-Donès s'est formé en circulade, un village rond, autour d'une église qui seule émerge sur une butte, sur une légère éminence, la seule à être épargnée lors des inondations dévastatrices de la Barguelonne, qui inondent tout le village. Aux origines, me disaient certaines personnes de Saint-Donès au courant du passé de leur village, aux origines, Saint-Donès était un véritable marécage. Il n'y avait que la butte, une petite butte qui émergeait où on a bâti l'église, sous le patronage de Saint-Denis. L'église actuelle est sous le patronage de Saint-Pierre-Aulien. Elle était primitivement orientée vers le point où le soleil se lève le matin du 1er août, fête de Saint-Pierre-Aulien, mais semble-t-il, qui a hérité de ce qu'était dans le monde gaulois, la fête de l'union du ciel et de la terre, la Lugnasad. L'église actuelle a eu son cœur, son abside déplacée, réorientée, si on peut dire. De nos jours, le cœur se trouve à l'ouest. Mais l'axe absidal nouveau, l'axe occidental, représenté par le fait du toit, indique le coucher du soleil au soir de la Saint-Denis. Et cette église se dresse sur cette petite éminence autour de laquelle se trouvait donc ce marécage qui a envahissé tout le fond de la vallée de la Barguelonne et où s'est formé le village après abandon de la fameuse villa gallo-romaine de Goulfier. Il y a eu deux centres de concentration de la population. Au 4e, 5e siècle, ça a été Saint-Donès et la butte de Montcuq. Il y avait un immense domaine, on voit très bien son étendue quand on descend la côte de Ventorel, qui occupait tout le bassin entre Bagat, Saint-Donès, Montcuq. Et donc il y avait là donc, cette butte qui a recueilli l'église, et c'est assez intéressant dans la mesure où, dans la région de Paris, l'endroit où l'on a inhumé Saint-Denis, après son martyr par décapitation, après qu'il ait porté sa tête d'abord jusqu'à Saint-Jean de l'Estrée, avant que son corps soit ensuite déposé dans le lieu actuel de Saint-Denis, ce lieu s'appelait Catuliacum. Et c'était un marécage, c'était des palus infernaux, des marécages, des portes des enfers. Catuliacum, ça veut dire le domaine du petit chien. Là, je n'irai pas jusqu'à parler de la canicule, de Sirius, ce serait pas impossible. Il faut savoir que dans les grandes chroniques de France, rédigées à l'abbaye de Saint-Denis, entre le XIIe et le XVe siècle, Toutes les vignettes et enluminures sont encadrées d'un liseré bleu, blanc, rouge, ce qui vous montre les origines du drapeau tricolore, du reste. Et ces trois couleurs symbolisent trois saints protecteurs du royaume de France, blanc, Saint-Michel, souveraineté sacrale, céleste, rouge, martyr sanglant de Saint-Denis, au 9 octobre, Saint-Michel, c'est 8 mai, 29 septembre, et le bleu, c'est Saint-Martin, Saint-Martin de Tours, 11 novembre. Or, dans la charte des coutumes de Montcuq, qui a quelque chose de très curieux, c'est que la période pendant laquelle on peut introduire dans le vieux bourg de Montcuq tout le vin que l'on voudra et en faire commerce toute l'année sans payer de taxes, cette période va de la Saint-Michel 29 septembre à la Saint-Martin de Tours 11 novembre. On voit donc apparaître, si vous voulez, le calendrier d'origine fort ancienne qui scande l'année viticole dans nos régions et qui se retrouve dans la mythologie, les légendes, les traditions de tous les saints patrons de la vigne et du vin, car il n'y a pas que Saint-Vincent et Saint-Denis, vous avez tout un tas de saints qui, parce que leurs fêtes se trouvent placées à des moments clés du calendrier viticole, vont devenir des saints patrons de la viticulture. Cette fête de Saint-Vincent nous introduit, nous oriente, nous guide vers d'autres dates clés du calendrier. Alors vous avez la Chandeleur, la Saint-Blaise, la mi-mars, etc. etc. Cela tourne autour des rites du carnaval, qui commençait la période carnavalesque selon les recherches des historiens, des mythes et des religions, qui se réunissent au sein de la Société de mythologie française. Et je pense notamment à quelqu'un que je connais bien, Dominique Pauvert. Mais il n'est pas le seul. Et ils l'ont publié dans différentes œuvres et publications, articles et livres plus savants. Il voit dans la période hivernale, qui est celle de maturation du vin, une période carnavalesque qui s'étale depuis au moins la Toussaint ou la Saint-Martin, 11 novembre, jusqu'au début du carême. Et que le carême interromprait. C'est assez curieux, dans les traditions, les pratiques anciennes de viticulture, de viniculture, de production du vin, contrairement à ce que l'on fait de nos jours où l'on soutire le vin dès l'automne, dès le mois d'octobre-novembre pour faire du vin nouveau, dans l'Europe, la Méditerranée ancienne, on conservait le vin avec la vendange, le moût et la vendange, en macération, en fermentation, tout l'hiver, dans des jarres en pierre ou en terre cuite, enterrées, bouché avec un bouchon de terre cuite enduit de plâtre, et on laissait macérer tout l'hiver. Quelquefois, on ouvrait ce bouchon et on brassait la vendange pour enfin ne la soutirer qu'au mois de mars, où l'on goûtait le vin nouveau. C'était là la période où, dans la Méditerranée ancienne, on entrait dans la période de consommation du vin. Il y avait donc des fêtes, des dates, païennes si on veut dire, en rapport avec ces pratiques, ces techniques qui ne sont plus les nôtres de nos jours, de viticulture et de viniculture. Alors les grandes dates, c'était en avril, c'était en août, beaucoup plus que de nos jours où nous privilégions d'autres saints comme saints patrons. Ce n'était pas le même calendrier, donc, de ce fait. Et cela se retrouve, si vous voulez, dans différentes régions d'Europe et jusque dans la production artistique et littéraire, à travers les sculptures, par exemple, de la basse antiquité, de l'antiquité tardive, mes chers 4e et 5e siècle, la période qui est la mienne, où l'on a retrouvé des sarcophages dont on est incapable de dire s'ils sont chrétiens ou, disons, païens, entre guillemets. Parce que les motifs sculptés peuvent être interprétés dans des sens païens, dionysiaques, apolliniens, comme dans des sens chrétiens. On connaît très bien un sarcophage où une vigne en rameaux chargée de très grosses grappes est vendangée par ce qu'on appelle des amours, des putti en italien, des erota en grec, c'est-à-dire des petits angelots, si vous voulez bien joufflus, les enfants d'Aphrodite, les amours, qui vendangent la vigne, la presse, la foule, ça évoque le martyr de Saint-Vincent et les rites d'offrandes, de sacrifices, mêmes humaines à Dionysos, et le vin qui coule des pressoirs sort de la gueule de lion, bouche ouverte. Alors, il y a toute une mythologie qui réapparaît. Le lion, c'est certes le mois d'août, c'est le soleil, c'est un animal solaire qui, littéralement, dégueule, faudrait-il dire, c'est le mot est tout à fait caractéristique, du vin, ce vin de la sagesse divine, ce vin de la connaissance divine, mais qui est aussi celui de la folie dionysiaque. Or, le lion donneur de vin, c'est dans le monde biblique, vétérotestamentaire, le lion de Juda. C'est le plus beau des enfants des hommes. c'est le Messie. C'est le roi Messie promis à Israël, roi Messie qui est aussi grand prêtre du temple de Jérusalem. Il est à la fois, je le dirai d'après l'arabe, Malik, la racine M-L-K. Il est aussi Kohen HaKohenim, prêtre des prêtres. C'est une fonction de souveraineté sacrale, céleste, divine. Or, qui est-ce qui était destiné à devenir roi et Messie d'Israël par ses ancêtres en ligne mâle, les ancêtres de Joseph? C'est Jésus, dont la mère, Marie, faisait partie de la tribu de Lévi, donc de la tribu où se recrutaient les prêtres au temple de Jérusalem. Ça fait donc, si vous voulez, de Jésus un nouveau Dionysos. Il accomplit, il parachève en lui les promesses contenues dans la personne du roi d'Israël, du grand prêtre du temple de Jérusalem, mais aussi du Dionysos Bacchos de l'Antiquité païenne. Or, à Montcuq, au bas de la rue dite du Plat, la Carriero del Plat, qui monte de la mairie vers le collège, à droite, seconde maison de la rue, une maison médiévale, à l'intérieur est sculptée une tête de lion, le lion de Juda, gueule ouverte, tenant un globe dans sa gueule. Ce globe, c'est l'univers temps. En hébreu, c'est Olam, c'est le tout. Et ce lion qui tient la gueule du monde dans sa gueule ouverte, c'est le lion de Juda. C'est le Messie promis à tous les peuples. C'est le roi Messie d'Israël et c'est le grand prêtre du temple de Jérusalem. Au fond, c'est la figure chrétienne de Jésus de Nazareth. Jésus le Nazara. Jésus qui, par son vœu, se condamne à s'abstenir de vin. Mais il rompt cet interdit parce que Jésus était, semble-t-il, d'obédience essénienne. Et pour le repas de la scène, il boit du vin en disant à ses disciples « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je revienne dans la gloire, etc. à la fin des temps. » Alors, cette maison rabbinique de Montcuq, j'appelle ainsi parce qu'à mon avis, elle devait appartenir à une famille de rabbins, il y avait une source des Juifs à Montcuq, je la vois de ma fenêtre. Les chapiteaux extérieurs sont sculptés de quoi? De feuilles de lierre. Or, le lierre, sans les baies, qu'est-ce que c'est? C'est la plante de Dionysos, parce que Dionysos est figuré sur des vases bien connus hein, de céramique, de retour des Indes, où il a accompli son initiation dans un char traîné par des panthères, char qui devient un bateau, un carus navalis, un char naval, un car naval. Il est affalé dans le carus navalis, dont les rames et les mâts se sont transformés en vignes chargées de raisins. Il est couronné de lierre, mais de lierre sans les baies. Pourquoi? Parce que Dionysos a bu le vin dans lequel il a fait macérer des baies de lierre écrasées jusqu'à fermentation. Et cela l'a plongé dans un état hallucinatoire où il accède à une vérité au-delà du réel, mais qui conduit ses adeptes à se livrer à des rites orgiastiques de chasse aux animaux à sang chaud et de dévoration vivante de ses victimes offertes à leur dieu patron, leur dieu maître Dionysos, dont le nom se retrouve dans celui du premier évêque historico-mythique de Paris, Lutetia, la ville des marécages. Et là, nous avons donc, à Montcuq, si vous voulez, un résumé, un rassemblement, une compilation de bien des motifs et des thèmes de la mythologie de Dionysos. Je t'étais parti de Saint-Vincent, le vainqueur, le vainquant, j'en arrive à Dionysos. Or, le nom de Dionysos, qu'est-ce que ça veut dire? Diwos, c'est le génitif, le complément de possession du nom de Zeus. Ça veut dire de Zeus. Et Nissos, qu'est-ce que c'est? C'est le prince héritier, c'est le fils de Zeus. Or, dans la légende des origines, Montcuq aurait été fondé par un certain Dioscoros, gouverneur du Quercy vers 250, l'année du millénaire de Rome. Et que veut dire Dioscoros? Ça veut dire le jeune homme, prince héritier, fils de Zeus. Alors, que l'on retrouve ça dans un édifice privé de Montcuq qui a été une maison rabbinique au Moyen-Âge, au XIIe, XIIIe siècle, je veux bien. Mais que l'on retrouve cela dans les sculptures de Saint-Hilaire de Montcuq, c'est encore plus étonnant. Et c'est pourtant ce dont on peut s'apercevoir quand on les analyse de près. Il faut une bonne vue ou un appareil photo à bon rapprochement. Ce n'est pas sans m'inquiéter quand je pense à tout ce que l'on peut tirer également d'autres lieux. Prenez par exemple l'église de Saint-Privat à Montcuq. Saint-Privat, c'est un saint martyr le 21 août. Or, dans le monde romain ancien, c'était le jour de l'engrangement des céréales. Et c'était un jour de fête religieuse, c'était les Consualia, d'août, formé sur le nom de Consus, le grenier où l'on engrangeait les céréales. Le saint patron complémentaire de la paroisse, le 25 août, c'est Saint-Louis, où s'achevaient les rites des Consualia, jours impairs à la mode romaine antique. Seulement, le 25 août, c'était aussi la fête d'un saint de la Gaule romaine tardive, Saint-Géniès d'Arles, saint patron de la paroisse voisine de Saint-Géniès, qui a aussi Saint-Louis pour saint patron au 25 août. Or, qu'est-ce que c'est que Saint-Géniès d'Arles, Génésius? Il est la figure même du libre, du libéré, en grec Eleutheros, Éleuthère, qualificatif de Dionysos. Il est martyr par sa volonté de se libérer des contraintes comportementales et psychiques, collectives et sociales, ce qu'on appelle en bon latin la cultura et la religio. Il est martyr alors que, païen, fils d'une famille de l'aristocratie gallo-romaine d'Arles, il entre en rupture avec les interdits, les tabous qui pesaient sur la fonction de comédien et qui enserraient l'aristocratie et les hommes libres dans le monde romain. Les hommes libres, les nobles, ne devaient pas figurer sur la scène du théâtre. Ils ne devaient jouer ni tragédie ni comédie. C'était un interdit qui s'est maintenu longtemps dans l'Église catholique. Génésius, lors d'une comédie, et c'est pas n'importe laquelle, parce que la comédie, bon, tout le théâtre grec était sous le patronage de Dionysos, mais la comédie, la comoidia, c'est la vision qui fait rire, qui fait éclater de rire, qui fait exploser de rire. Le rieur, ce sera Hilarius, Saint-Hilaire, le saint patron de Montguc. Et lors d'une comédie sur le théâtre d'Arles, Génésius se lance sur la scène et mime, ou tente de mimer, de caricaturer, de ridiculiser le rite chrétien du baptême. Mal lui en prend, si on peut dire, parce que à peine a-t-il accompli et mimé les rites, on dirait en occitan, dégaunia, les rites du baptême chrétien, il est brutalement saisi par le Saint-Esprit et se convertit sur la scène. Aussitôt, les nobles d'Arles le prennent en chasse, le poursuivent pour le tuer, il traverse le Rhône à la nage, il est rattrapé sur la rive occidentale, le côté des morts, dans le cimetière des Aliscans. Les Aliscans, c'est des Campi Élysées, c'est les Champs-Élysées. Et il est décapité, inhumé sur place. Sa tombe sera ombragée par un mûrier dont l'écorce soignera et guérira. Et notre Saint-Géniès, donc d'Arles, va être le saint patron de Saint-Privat de Montcuq. Mais par son martyr, il évoque les rites de la religion de Dionysos, tel qu'encore pratiqué en Gaule romaine vers 300 de notre ère. On est donc là, dans un monde qui conserve, qui retrouve, qui a perpétué longtemps des traditions, des rites religieux venant de la Grèce archaïque du 15e siècle avant notre ère, repris, réactivés dans le monde romain, conservés, et qui se retrouvent jusqu'à dans la mémoire des premiers siècles chrétiens, tels que conservés dans la légende dorée de Jacques de Voragine et d'autres vies de saints. L'étude de ces vies de saints, de ces passions de saints du haut Moyen-Âge, de l'Antiquité tardive, qui n'intéresse pas beaucoup les antiquisants. Les professeurs d'Antiquité romaine et grecque ne sont pas trop, ils trouvent ça un peu ennuyeux. Et c'est pourtant bourré de motifs dont l'analyse, certes très difficile parce que c'est très dispersé dans toutes ces vies de saints, mais ce sont des motifs qui sont souvent cachés, ils sont souvent recouverts par des présentations dites chrétiennes, et qui intervient à titre de détails secondaires. Et c'est l'abondance de ces détails qui souvent égare l'esprit, mais si on sait arriver à les lire, là j'ai essayé de vous, de vous le montrer, mais c'est vraiment un des plus difficiles, on arrive à reconstituer comment s'est effectué le passage du paganisme antique au christianisme de l'Antiquité tardive, et qui alors après bien des événements politiques et religieux, va donner naissance au christianisme médiéval, qui n'a plus grand chose à voir, il faut le savoir, avec le christianisme des origines. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors à travers ces calendriers liturgiques, qui sont aussi la reproduction quelquefois de calendriers du monde méditerranéen européen dit païen, on retrouve donc la mémoire enquistée, mais toujours vivante, de vieux rites complètement oubliés, des populations qui n'en savent plus rien, et encore plus de nos contemporains qui sont totalement sécularisés. Mais on retrouve donc la mémoire de vieux rites religieux qui étaient, au fond, derrière. Qu'est-ce qu'on trouve derrière ces rites? C'est une vision générale de la nature et du monde qui sont dictées par l'inculturation de l'homme dans les conditions de son milieu. C'est-à-dire que l'agriculture, apparue au Proche-Orient vers 6000 avant notre ère, définitivement constituée, va induire, à travers toutes ses pratiques, ses techniques, ses savoir-faire, à travers les cultures elles-mêmes qui sont pratiquées et suivies, culture du blé, de la vigne, de l'olivier, ailleurs de l'orge, élevage du bétail, va induire, va susciter dans les populations la formation de mythes explicatifs de ce qu'on appelle les rites, mais qui sont en l'espèce, tout simplement, des pratiques agricoles. Et on va sacraliser ces pratiques agricoles par leur rattachement à des événements, si on peut dire, du monde des dieux, des multiples théologies païennes. Et cette attitude d'esprit se retrouve dans la christianisation du calendrier agricole, agraire de l'Europe ancienne, calendrier agraire qui est lui-même fondé, structuré, scandé par de très vieilles fêtes, qui sont tout simplement des dates de l'année agricole. Et si bien que c'est le reproche que feront certains curés de campagne au XVIIIe siècle, dans le siècle qui prépare et qui précède la Révolution, mais il n'y a pas de déterminisme en histoire, la Révolution de 89 n'était pas un phénomène inéluctable. Mais les curés de campagne du XVIIIe siècle s'étaient aperçus d'une chose, que même dans des régions fort peu christianisées, qu'elles n'avaient jamais été beaucoup, le Berry par exemple, ou en voie de déchristianisation, la Révolution ne fera qu'achever le phénomène. Les paysans continuent de respecter, et avec beaucoup d'attention et beaucoup de scrupules, des fêtes qui, pour l'Église, ne sont pas du tout ni chômées ni fériées, mais qui sont des fêtes de saints, ou des dates du calendrier pascal, ou du calendrier des fêtes de la Sainte Vierge, qui sont au fond des dates qui scandent, qui encadrent, qui structurent l'année agricole, l'année agraire. Au fond, ces jours-là, des paysans qui, par ailleurs, les curés le savent, sont fort peu sensibles à l'enseignement chrétien, qui sont même, il faut le dire, plutôt des clients de tavernes et d'auberges que de l'Église. Ces paysans, ces jours-là, mettons le jour de la Saint-Vincent, tiendraient pour péché majeur et mortel de travailler la terre. Alors qu'ils ne savent rien de ce qu'est Saint-Vincent, la vie de Saint-Vincent, le martyr de Saint-Vincent, ils ignorent tout. Les vérités et les enseignements du christianisme, n'en parlons pas. Mais ils voient dans Saint-Vincent une espèce de divinité, un daémon, comme disaient les Grecs de l'Antiquité, un maître souverain de la chose qu'est la vigne et qu'est le vin. Au fond, la personne de Saint-Vincent, pour eux, à une date de l'année qui est celle du redémarrage de la saison viticole, avec le début de la taille de la vigne, le personnage de Saint-Vincent est un personnage qui va leur assurer la bienveillance d'un monde de forces contre lesquelles ils ne peuvent rien, celle de la nature. Une Europe ancienne qui, dans sa religion, sa vieille religion, qui n'était pas le christianisme, qui précède le christianisme et qui continue de vivre à travers et dans et sous le christianisme, une Europe ancienne donc qui scandait son année agraire par des dates clés, alors, entre autres, pour nous, ce qui nous intéresse, la Saint-Vincent, la date à laquelle l'hiver persédant ou les pousses plus tranchantes, per San Vincens, l'hiver quito sidens ou l'aivoto plus escusens. Voilà, je pense pas avoir... Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais on n'en finirait plus, et votre patience serait épuisée. Je vous comprends. Je vous remercie si vous avez pu m'écouter jusqu'au bout, et j'espère que nous nous reverrons bientôt, ce sera sur un autre sujet, la chandeleur, les rites de février, il y a plein de choses de la sorte. Alors donc, à la prochaine fois, si vous le voulez bien. Merci bien. Au revoir.
Je bois du vin clair, ami, tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois un jour à bois. Quand je bois du vin clair, ami, tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois un jour.